Et nous poursuivons nos méditations dans l'évangile de Marc, méditation que nous avons entamée donc en ce début d'année d'église en septembre. Et nous sommes en Marc 6 et aujourd'hui on va mettre ensemble deux passages, Marc 6, 14 à 34. Alors dimanche prochain, c'est le dimanche de l'évangélisation et le passage qui a été choisi correspond justement à Marc 6, 7 à 13. Donc on va le laisser de côté cette fois-ci. On va le compléter la semaine prochaine avec Matthieu. Et donc on va lire ce passage de Marc 6, 7 à 13 la semaine prochaine. Et dans ce passage, il y a Jésus qui envoie les 12 en mission. Et juste après, eh bien, il y a le passage que nous lisons aujourd'hui, à la fois la mort de Jean-Baptiste, et puis, surtout, hein, ce qui précède la multiplication des pains. On ne va pas voir la multiplication des pains. Roger a prêché là-dessus il y a quelques mois. Mais on va voir ce qui précède. Jésus qui dit « Venez à l'écart dans le désert pour vous reposer un peu. » Et c'est ces deux passages que nous voulons lire maintenant. Le roi Hérode a pris la renommée de Jésus. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts ». C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient au contraire « c'est Élie ». D'autres disaient « c'est un prophète comme l'un des prophètes ». Mais Hérode, en apprenant cela, disait « ce Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité ». Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean-Baptiste et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. En effet, Jean-Baptiste lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodiade avait du ressentiment contre Jean-Baptiste et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste, un homme de Dieu, un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva. C'était un jour d'anniversaire. L'anniversaire de sa naissance. Et il donna ce jour-là un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra, elle dansa, elle plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il lui fit ce serment devant tous, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère lui répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa donc de rentrer vers le roi et de lui demander la tête de Jean-Baptiste. « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments, à cause de ses convives, il ne voulut pas se désister, opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et ils le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent, s'en allaient, et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis, des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Que le Seigneur éclaire sa parole et l'applique à nos cœurs par son Esprit Saint. Amen. Donc, juste avant le passage que nous verrons la semaine prochaine, Jésus envoie les 12 en mission. C'est une mission qui a été difficile, certainement. Une mission qui a dû durer peut-être 6 mois, on ne sait pas. Mais c'est une mission qui a été certainement aussi éprouvante. Donc, nous pouvons nous en douter en écoutant Jésus les avertir qu'ils ne seront pas toujours bien accueillis là où il les envoie et qu'ils devront parfois secouer la poussière de leurs pieds, c'est une expression qu'il va employer, en partant de certaines maisons qui auront été inhospitalières où ils n'auront pas reçu un bon accueil. Alors, dans le passage d'aujourd'hui, nous retrouvons les 12 qui viennent rendre compte de cette première mission. Et le récit, nous trouvons aussi intercalé le récit de la mort de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ce récit de la mort de Jean-Baptiste fait là, à ce moment-là, intercalé, et qu'est-ce que l'ensemble veut nous dire? Alors, il y a un rapport entre la mission des 12 et la mort de Jean-Baptiste. Marc rapporte la mort de Jean-Baptiste à cet endroit-là, car son sort, on va dire, annonce la mort de Jésus. La mort et le sacrifice également, certainement, des apôtres, et également, certainement, le cheminement de chaque chrétien dans une vie de renoncement à lui-même. Alors, si on fait un rapport entre la mort de Jean-Baptiste et la mort de Jésus, il y a plusieurs points. L'un et l'autre ont été exécutés en raison de leur justice. L'amertume a poussé Hérodiade à faire pression sur Hérode. Et c'est pour Jésus l'amertume, la jalousie des autorités religieuses qui les ont poussés à faire pression sur Pilate pour faire crucifier Jésus comme un malfaiteur. Autre point, Hérode et comme Pilate ont cherché à épargner un temps la mort aux deux hommes de Dieu, Jésus et Jean-Baptiste. Néanmoins, on peut dire, ils n'ont pas été très loin. Tous deux vont céder sous la pression des autres, du candidaton, de la foule, de tous ceux qui les regardent, ils vont céder pour sauvegarder leurs intérêts, leurs intérêts propres. On peut dire aussi que la mise au tombeau de Jean-Baptiste par les disciples de Jean-Baptiste, annonce la démarche de la mise au tombeau de Jésus par ses disciples, par les femmes venues de Galilée, par Joseph d'Arimathée, par Nicodème. On peut dire que Jean-Baptiste meurt injustement, mais il accomplit quelque chose d'utile dans ce dernier acte de sa mort. Il accomplit son dernier acte de prophète en mourant de cette façon-là. Et c'est certainement un des actes les plus profonds de toute sa vie de prophète. Il a déjà annoncé que le Messie viendrait après lui, qu'il serait plus grand que lui. Qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers, qu'il les remplira de son esprit. Et il annonce, là, en mourant de cette façon-là, il annonce comme les prophètes Ésaïe, comme d'autres prophètes de l'Ancien Testament, il annonce par un geste, le geste de sa mort, il annonce ce qui va arriver à Jésus. Et Jésus va mourir, mais il ne va pas mourir simplement comme Jean-Baptiste, comme un prophète qui donne sa vie, mais il va accomplir sur la croix, bien plus que ça, il va accomplir sur la croix la rédemption du monde par sa mort. Sa mort qui ne sera pas un accident, qui ne sera pas simplement le fruit de la vengeance d'un homme ou d'une femme, mais qui sera la solution de Dieu pour le péché de l'humanité. Sa mort qui sera expiatoire. Alors, pourquoi donc relate-t-il la décapitation de Jean-Baptiste de façon si détaillée à cet endroit-là? Eh bien, je crois, comme on l'a déjà un petit peu dit, cet épisode tempère l'enthousiasme débordant que les succès répétés des disciples pouvaient engendrer. Verset 13, qu'on n'a pas lu, ils reviennent plein d'enthousiasme. Et on va y revenir tout à l'heure. Cet enthousiasme pouvait les mener dans la mauvaise direction. Et pouvait leur faire oublier que la vie avec Dieu, la vie chrétienne, n'est pas faite que de victoires. Et la suite du ministère de Jésus va le montrer. La vie chrétienne n'est pas faite que de victoires, mais elle est faite aussi de renoncement, de sacrifice à la suite du Maître. C'est même là que se situe le point d'aboutissement de l'Évangile. Ce que l'Évangile veut montrer, suivre Jésus, c'est marcher sur un chemin de renoncement, de sacrifice, c'est renoncer à sa propre vie pour faire la volonté du Père. Alors, il y a déjà là quelque chose. Et puis, on entre un peu plus dans le texte en parlant maintenant du repos des disciples et de l'enseignement de la foule par Jésus. C'est les versets 30 à 34. Alors, on peut dire que cette mission a dû être longue, elle a dû être difficile, puisque Jésus, plein de sollicitude, leur propose de se reposer, de venir à l'écart dans un lieu désert, en tout cas dans un lieu à l'écart. Évidemment, les foules qui suivaient Jésus et ses disciples ne laissent pas de répit à Jésus, et ni aux apôtres. Elles vont chercher à joindre Jésus et les apôtres, à les devancer pour les retrouver. Jésus, c'est comme une star qui est suivie par plein de groupies. Ils se donnent des messages de toutes sortes, ils savent toujours où se trouve la star qu'ils recherchent. On est dans cette atmosphère-là. Et Jésus donc descend de la barque, il voit cette grande foule et il discerne qu'elle est désemparée. Il va plus loin que ce qu'il voit. Il voit qu'ils sont désemparés, ils sont comme des brebis, des moutons, dit une autre version, sans berger. Et Jésus donc est bouleversé. Et bien évidemment, il ne peut pas s'empêcher de leur donner ce qu'ils attendent. Et il reprend donc son enseignement, l'enseignement qu'il avait interrompu. Il le reprend. On peut noter déjà un petit mot, c'est le mot apôtre. Les disciples sont appelés apôtres à ce moment-là. C'est la seule fois dans l'évangile de Marc qu'ils sont appelés apôtres. Et c'est à ce moment-là que c'est fait. Donc je crois qu'on peut y voir quelque chose. Ils sont apôtres quand les 12 sont apôtres quand ils ont besoin de Jésus. Ils ne sont jamais plus apôtres que quand ils ont besoin de venir vers Jésus pour lui rendre compte. Ils ne sont jamais plus apôtres que quand ils reviennent vers Jésus, leur berger, leur maître, le grand apôtre, Jésus. Et donc, ils sont apôtres quand ils reconnaissent leur faiblesse, leur besoin de Dieu, leur dépendance du Seigneur, quand ils rendent des comptes à plus grand que lui. Voilà quelque chose qui doit toujours nous faire réfléchir, ceux qui ont des responsabilités, nous les assumons d'autant plus que quand nous venons à Dieu pour retrouver la force, pour être renouvelés, et quand nous rendons des comptes à celui qui nous a confié ses responsabilités. Alors, il les invite à se reposer. De tout ce qu'ils vont lui rapporter, nous ne savons rien. En revanche, nous voyons que Jésus s'aperçoit de leur fatigue. Donc Jésus n'est pas... Et on retrouve ça dans plusieurs psaumes. Bien sûr, il est Dieu, fils de Dieu, égal au Père, au-dessus de toutes choses. Mais comme le dit le psaume 113, le psaume 11, il s'abaisse pour regarder les hommes. Il est tout proche de leurs besoins. Voilà le grand Dieu que nous avons, élevé au-dessus de tout, et proche de tout, proche de nous, au plus profond de nous-mêmes. Et donc, il s'aperçoit de leur fatigue. On pense généralement à leur fatigue physique. Ils viennent de rentrer de 6 mois, j'ai dit, de mission. L'activité a été intense. Les apôtres sont devenus célèbres pour les miracles qu'ils ont opérés. Et ils ont été très sollicités, on imagine. Et puis, ils continuent à être sollicités. on continue à les poursuivre. Et ça leur monte à la tête, certainement. Ils se croient indispensables. Dans ce... voilà. Et ils sont prêts à repartir. Ils ne pensent pas qu'ils puissent pouvoir s'arrêter. Non, il faut qu'ils repartent. Ça s'impose à eux. Mais ce n'est pas si... c'est pas approprié. Le surmenage n'est bon pour personne. Tout homme a ses limites physiques. Ce ne sont que des hommes. Le surmenage n'est bon pour personne et la fatigue accumulée rend l'homme plus vulnérable que jamais. Et Satan le sait et il en profite. Il en a souvent profité. Et il continue à en profiter pour attaquer ceux qui sont surmenés, fatigués physiquement. La retraite semble donc nécessitée par la fatigue physique des apôtres. Mais il y a une autre chose. Jésus appelle ses disciples à se reposer. Et le mot, dans le texte original, décrit le repos après une activité physique, bon, on l'a dit, mais aussi décrit la paix intérieure, le renouvellement spirituel. Donc, se reposer spirituellement. Et c'est dans ce sens que le texte doit être compris. Après un temps de mission, il est toujours préférable de dresser un bilan, de se renouveler intérieurement. Voilà, donc on est dans la journée des bilans aujourd'hui, et donc c'est bon, dans une assemblée générale, un jour d'assemblée générale, de s'arrêter un peu, de prendre le temps de regarder les comptes, de regarder ce qui a été fait, s'approcher au Seigneur, pour être renouvelé intérieurement. Bon, pour l'anecdote, c'est aussi un jour d'anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Johanna. Mais j'espère que je ne perdrai pas la tête pour autant. Voilà. Mais voilà, c'est une parenthèse. Donc c'est bon de faire des bilans pour être renouvelé. Et la compagnie renouvelée du Seigneur rend plus fort pour entamer une nouvelle étape. Et rend plus fort quand le découragement ou l'orgueil spirituel nous guette. Il y a toujours deux dangers. Soit le danger du découragement, soit le danger de l'orgueil. Une assemblée générale peut générer les deux dangers. Soit on est découragé, soit on est trop orgueilleux pour tout ce qui a été fait, soit on est au milieu. Et on a un peu des deux. Mais on a toujours besoin d'être renouvelé, de s'approcher de Dieu pour être renouvelé. Donc Jésus, habitué aux foules, et probablement à leurs excès, à leur excitation, après avoir reçu un enseignement, vu des guérisons, etc., eh bien, a souvent ressenti le besoin de se retirer, de s'extraire du bruit et des sollicitations incessantes pour reprendre des forces, pour se ressourcer, pour prier. Et c'est exactement ce qu'il propose aux 12 maintenant. Et dans sa sagesse, plutôt que de les questionner, et il aurait pu les questionner. Mais les questionner, ça va raviver l'excitation. Au lieu de les questionner ou de les écouter parler, il leur propose donc de prendre du champ à l'écart de la foule. Alors, pour lui, comme pour les 12, comme pour nous, il faut savoir se reposer spirituellement. Sinon, comment rester efficace? Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Ça a toujours été vrai. C'était vrai il y a 2000 ans. C'est encore plus vrai dans la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes immergés continuellement dans le tourbillon de la vie. Nos esprits sont surchargés par des informations, les informations que diffusent l'abondance de journaux, de radios, de télévision, d'Internet. Tout ça voltige. Nos esprits voltigent aux quatre coins du monde, tenus en haleine par l'actualité, inquiets, tendus. En permanence. Et nous avons tous tant à faire. Nous courons de ci, de là, dispersés au dehors, absorbés par nos occupations, nos soucis, notre travail, les divers services, les engagements que nous avons et qui semblent impératifs. Savons-nous donc prendre le temps pour nous ressourcer auprès du Seigneur? Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, on va dire, un temps pour se reposer, et un temps pour reprendre le travail, un temps pour la mission, un temps pour le ressourcement. un temps pour l'action, un temps pour le bilan. Alors, il n'y a pas que ça. Le second message nous donne une hiérarchie de valeurs. Il faut savoir renoncer au repos parfois. Le repos, c'est bien, c'est nécessaire, mais la prise en considération des autres, c'est encore plus important. Et ce texte, on contient une tension instructive. Il y a une tension entre deux foules. Il n'est pas interdit de fuir la foule, mais il faut aussi voir la foule. Il faut à la fois savoir se reposer loin du monde, mais il faut savoir aussi renoncer au repos quand l'urgence est là. Tout est affaire d'équilibre. Et comme souvent dans la vie chrétienne. Et le récit de Marc dit encore une autre chose. Il donne son explication de la compassion qui fait s'arrêter Jésus. C'est parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Donc il faut encore voir cette image de la brebis et du berger. Le thème du berger est classique dans l'Ancien Testament. Un des psaumes que les chrétiens préfèrent, parfois à l'exclusion de tous les autres, c'est le psaume 23, dans notre façon de compter en tout cas. Le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si vous ne le connaissez pas encore par cœur, il faut l'apprendre avant la fin de la journée. Jérémie, mais c'est tout un thème de l'Ancien Testament. Jérémie compare le peuple d'Israël à un troupeau de brebis, guidé par de mauvais bergers, des bergers qui ont dispersé le troupeau du Seigneur. Et le Dieu, le bon berger, dit Jérémie, va rassembler, quand il viendra lui-même, il va rassembler ce troupeau. Ézéchiel va plus loin, il condamne les chefs religieux, Ézéchiel 34, pour avoir failli à leur tâche, tous compris, quels que soient les chefs. Le prophète d'Ézéchiel ajoute que l'Éternel en personne deviendra un jour le berger des brebis, Ézéchiel 34, 11. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, dit Ézéchiel. Et le thème du berger est toujours associé au repos et au repas. Le berger conduit, bien sûr, son peuple, mais le berger nourrit. Il nourrit et conduit son peuple en lieu sûr. Or ici, il n'y a pas de repos pour le berger et ses missionnaires. Marc a précisé au premier verset de notre passage que les apôtres n'avaient pas le temps de manger. Le repos et le repas, c'est pour les autres. Notre épisode se prolonge d'ailleurs par le récit de la multiplication des pains. Marc veut visiblement présenter Jésus comme le berger. Le berger qui donne sa vie pour les autres. Le berger annoncé par les prophètes. Celui qui vient lui-même, Dieu qui vient lui-même. Celui qui rassemble et qui nourrit. Et mais il introduit une variante. Avant de nourrir cette foule, avec des pains et des poissons, Jésus l'enseigne. Il l'enseigne. Et c'est ça le sens premier de toute sa mission. Et donc le berger annoncé, et qui était incarné en Jésus, est un enseignant. Il traite les humains en humains, et non pas comme des moutons. Le mot mouton est trompeur dans la langue française. Le mot brebis est plus noble, c'est pour ça qu'on traduit souvent les brebis. Mais il y a quelque chose, ça vaut la peine de réfléchir à ça. Ici, le berger traite ceux à qui il délivre un enseignement, non pas comme des moutons, mais vraiment comme des humains avec lesquels il veut entamer un dialogue, avec lesquels il veut apporter une parole vraie. Il apporte une parole qui n'est pas une parole de séduction, une parole racoleuse, de publicitaire, une parole convenue qui entretient les auditeurs dans leurs préjugés, dans leurs opinions, ou une parole qui fait peur, qui menace. Non, le texte utilise un terme sans équivoque, c'est un enseignement que délivre Jésus. Jésus s'adresse à leur réflexion, à la réflexion de ses auditeurs. Et rien à voir avec les leaders, les führers, les duces, les conducators, les guides suprêmes et autres gourous qui parlent aux émotions et qui finalement conduisent les foules à l'abattoir. Jésus enseigne, il instruit, hein, il ne séduit pas, hein, il ramène à Dieu, il construit. Alors là est le troisième message de ce texte. Hein, le second message enseigné, qu'il faut savoir renoncer au repos quand une urgence s'impose. Et le troisième précise que cette urgence, c'est de répondre aux besoins des foules qui sont comme des brebis sans berger. Nous comprenons qu'il s'agit de la soif de comprendre, d'apprendre. Jésus renonce au projet de se retirer au calme avec ses amis uniquement parce qu'il voit cette foule en attente d'un enseignement profond. Donc il faut se méfier des textes apparemment simples et bien connus. Hein. Ils peuvent contenir des trésors cachés. Hein. Nous venons d'en découvrir au moins trois, hein. Mais une foule d'autres gisent sans doute entre les lignes de ce texte. On dit trois, mais c'est une seule bonne nouvelle que ce texte nous rappelle. Hein. Une seule bonne nouvelle qui nous attendait derrière les mots de ces versets de l'évangile de Marc. Et donc on peut conclure en mettant l'accent sur Jésus, qui est le berger qu'Israël attendait, le berger promis, Dieu lui-même berger de son peuple, le berger qui conduit ses brebis en des lieux paisibles et qui les nourrit en abondance, en apportant sa parole de vie, sa parole libératrice. On peut préférer une formulation actualisée à tout ce que je viens de dire. On pourrait dire au milieu des discours en tout genre auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, discours politiques à l'orée de ces élections, discours économiques qui disent des choses contraires, on ne sait plus quoi penser, discours commerciaux qui nous agressent dans cette société de consommation. Au milieu de tant de discours, qui disperse nos esprits, finalement. Sachons recevoir, pour la recueillir, la parole de Jésus, le Christ, le Seigneur annoncé. C'est une parole, c'est la parole évangélique, la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui apaise, vraiment. Une bonne nouvelle qui construit, qui instruit, qui construit, vraiment. Sachons tout à nouveau la recevoir, pour la recueillir et l'accueillir dans notre vie. C'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Amen.